Que fait la politique à la littérature ? C'est l'heure de Tambouille, la série qui émulsionne engagement et création. De jeunes autrices issues du Master de création littéraire de Paris 8 vous proposent des récits suivis de conversations autour de la ruralité, les transclasses, le tofu, Mbappé, les ellipses, le mur de Planck, les plats préparés, l'accouchement, les archives, les paysannes, le...
Dans cet épisode, nous allons écouter « Soustraire des bouts » de Céline d'Auvergne. Une plongée dans la vie quotidienne comme terrain politique. Ici, la matérialité des corps, des mots et de la pensée sont pris dans la multitude, les trouées et les contradictions, parfois jusqu'à l'absurde.
Il y a le son et il y a l'image. La sociologue a les cheveux longs, raides, bruns, détachés. Elle est interviewée dans une vidéo d'un journal en ligne à propos de son livre. Les deux personnes qui sont là pour l'interroger ont aussi les cheveux longs, mais attachés. Les micros sont apparents dans ce qui semblerait presque être un salon. On est presque chez quelqu'un, quelqu'une. Elles sont installées sur deux canapés gris, l'un avec accoudoir, l'autre sans. Et à 51 minutes 18 secondes, la sociologue dit
« Pour que moi j'aie du temps pour faire du travail affectif, qui de l'autre côté, à l'autre bout du monde, me permet de consommer rapidement, de réchauffer rapidement mes plats, de faire en sorte que même des enfants, ce soit simple pour eux de réchauffer des choses quand je ne suis pas là et est-ce que j'y pense ? Comment j'intègre ça à ma vie quotidienne ?»
À la lecture, tu nous concentres sur la matérialité. Une catégorie que tu prends, tu construis, tu déplaces des choses, et donc ?
Et donc ? Je sais pas. Et donc, le ménage n'est toujours pas fait. Du coup, on délègue, parce qu'on ne peut pas se permettre un certain nombre de tâches sans délégation. Du coup, qui fabrique les matières ? Du coup, dans cette manière-là de faire maison ? Du coup, comment, mis bout à bout, on arrive au couple réduit à la famille nucléaire ? Du coup, un foyer très réduit qui impose la mécanisation. Du coup, isolement. Du coup, l'experte en art ménager. Et donc, c'est opérant l'aide en nature de l'ensemble de la maisonnée. Du coup, sinon, c'est pas viable. Donc, pensez aux paysannes, et donc les femmes, et donc le début de la fin des sociétés paysannes. Et donc, toute prise dans la double journée. Et donc, quand même des spécificités. Du coup, ça déplace. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Et donc, ça m'a paru le terme le plus commode et le plus juste. Du coup, la subsistance, et donc, la prise en compte du partage du travail de subsistance, du coup, pas en périphérie. Et donc, soit c'est visible, soit ça ne l'est pas. Du coup, c'est pas parce que c'est visible que c'est égalitaire. Mais bon, du coup, ça peut le devenir. Et donc, la nature conçue comme des matières à transformer. Et donc, il faut les chauffer, et donc, le petit élevage, du coup, aller chercher l'eau, et donc, la confection, et donc, je brode. Du coup, une autre histoire est racontée. Du coup, la détruire.
Ça m'a marqué quand tu écris « La déconnexion de la matérialité ».
Oui. Quand tu te rends compte, ça devient visible. Le capitalisme conduit au service de professionnels. Leur action permet la monétarisation et bing, ça entre dans l'économie. D'où la segmentation. On délègue. Une notion assez le livre pas encore Maria Millet, Subsistance perspective pas traduit. C'est pêle-mêle, mais ça a un sens assez stable. Habiter un territoire, c'est la vie même. Et ça réfère à des sociétés. Nécessairement un groupe social. Nécessairement une autoconsommation. On ne se mange pas soi-même. Du coup, à la place d'auto, je mets entre. Et je tombe sur subsistance. Ça efface l'auto. comme si c'était par soi-même pour soi-même, alors qu'il s'agit toujours d'un groupe, un couple très élargi. C'est pas possible d'avoir de l'autonomie avec si peu de gens. Pour que moi j'aie du temps pour faire du travail affectif. Qui de l'autre côté, à l'autre bout du monde, me permet de consommer rapidement, de réchauffer rapidement mes plats, de faire en sorte que même des enfants, ce soit simple pour eux de réchauffer des plats quand je ne suis pas là, et est-ce que j'y pense? Comment j'intègre ça à ma vie quotidienne? Ça sort de l'observable et ça devient un problème cognitif. C'est pas possible d'intégrer à ce point la chaîne des dominations en tirant le fil du pullover artisanal. Qu'est-ce qu'on refabrique? Matière monde, planétaire, femme du Sud, c'est pas pour rien. L'Inde, première sociologie, c'est pas pour rien. Sur les femmes, le Venezuela ou des liens en Afrique, c'est pas pour rien la mise en sorcellerie. Voilà. Donc en fait, ça fait partie de la quotidienneté et c'est pas pour rien si je l'intègre pas. C'est pas pour rien si ça ne s'intègre pas dans mes cellules. C'est pas pour rien si j'ai beau tenter l'intégration une à une des tâches quotidiennes dans mon quotidien pour m'efforcer de ne pas exploiter l'autre, m'évertuer à ce que ma vacance n'exploite pas l'autre anonyme. C'est pas pour rien si je parviens pas à ma subsistance, ni même à l'interconnaissance de mon producteur de subsistance. Je ne connais pas celles qui font pousser les poireaux, les betteraves. Je ne connais pas celles qui ont fabriqué mes ustensiles de cuisine, qui ont confectionné mes vêtements, qui ont construit l'appartement dans lequel je vis. Je ne connais pas celles qui ont conçu le canapé sur lequel je m'assois. Je connais presque les pêcheuses qui pêchent le poisson que je mange. Je connais celle qui prend soin de mes enfants. Je fais moi-même le ménage, la vaisselle, laver le linge, la cuisine. Je connais celui qui a conçu mon sommier et mon matelas. Il est venu chez moi, il s'appelle Jean-Claude. Jean-Claude Hoth. Je ne connais pas celles qui ont fabriqué mon téléphone portable, mon téléphone fixe, mon ordinateur portable, mon ordinateur fixe, la Switch de mon fils, le téléphone de mon fils, ma chaîne IFI, mon enceinte portable, mon lecteur MP3, ma tablette, ma liseuse, ma montre connectée, mon casque Bluetooth, mon imprimante Wi-Fi, mon clavier de lumière souriante, mon appareil photo. Je ne peux pas rompre le cycle de l'interméconnaissance. Mais je peux raconter cette histoire. C'est très important la puissance des femmes. Et c'est très important la révolution du néolithique. La lecture des sources interprétées, ça marque le travail de la communauté. Les contre-récits, une autre lecture, c'est important politiquement. Elle et puis les années 70, les hommes, l'histoire réévaluée, la relecture entre les lignes. Et l'université n'est pas le seul lieu de savoir. Les cercles de parole, ça c'est horizontal, c'est historique. Le patriarcat a une origine, donc une fin. Tellement le seul système, tellement mis en place, quasi instinctif, eh bien non, ni premier, ni original, ni la bicatégorisation. Et le mythe du chasseur, hein? Un chasseur sans vivre ne peut pas partir chasser. Et la viande chassée, comment qu'on la garde? Comment qu'on la conserve? Comment qu'on la transforme? Alors l'évidence du régime carné, c'est pas du tout une évidence. Et je cueille les biais endocentriques. Cueillette, petite chasse, confection, c'est bien interdépendant et c'est bien vital. Car sans transformation du cuir, il faut en faire quelque chose. On ne boit pas à la mamelle et ça c'est un gros travail et ça ne s'accapare pas. C'est l'ensemble du groupe et là, tu évites le travail domestique. L'autoproduction, et c'est pas une petite affaire, accorde un énorme pouvoir. Et la puissance des femmes et le renouvellement des matières. T'accouches ou pas? C'est-à-dire, savoir faire un bébé, c'est qu'on passe par la matière pour se renouveler. Nous, les femmes, un savoir-faire de la naissance. Des techniques substituées par d'autres, ultra-industrialisées. L'éradication d'autres savoirs présentés comme dangereux. Ça passe par quoi, les formes? C'est ça, la visée. La réappropriation en partant du palier où on se trouve. Partir du palier où on se trouve. L'horizon idéal, c'est la mairie ou le conseil municipal. L'État est à des années de redonner plus de pouvoir. Par quel rouage? Des formes politiques, dans la perspective du là où on est et pas du tout d'un territoire dont je ne connais pas les limites. Des portions qui peuvent être soustraites à l'économie libérale. Il faut commencer par soustraire des bouts.
Alors on vient d'écouter le texte « Soustraire des bouts » par Céline d'Auvergne. Maintenant, on va pouvoir en discuter. On est avec
Emmanuel.
Louis.
Et moi, c'est Yvan. Alors Céline, tu définis souvent tes textes, et celui aussi en particulier, comme relevant peut-être davantage de la poésie. Et en même temps, on entend bien qu'ils évoquent des thématiques qui sont personnelles. Je voulais savoir en quoi est-ce que toi, tu considères que ton écriture peut appartenir à une écriture personnelle, une écriture de soi ?
Je ne sais pas très bien ce que c'est une écriture de soi, une écriture personnelle, au sens où moi j'écris, je viens de la danse et de la performance, et donc j'ai la sensation d'écrire beaucoup depuis l'expérience que je fais des choses, et donc de les traduire, de les rendre par une sorte d'ingestion, enfin en tout cas elles passent par moi quoi. Donc parfois évidemment elles sont contaminées ou nourries par l'extérieur, mais en fait j'ai l'impression que jusqu'ici j'ai eu beaucoup la sensation de pouvoir rendre que ce qui était mon propre point de vue quoi, et en ça le relier sans cesse à ce qui me concerne. Et en l'occurrence, pour ce texte, c'était aussi par rapport à la question de la théorie, de me dire, bah, en fait, moi, il y a eu tout un temps où je n'arrivais pas trop à lire des romans et je lisais beaucoup d'essais, en fait. Et j'avais la sensation que c'était vraiment ce qui m'ouvrait l'imaginaire, en fait. C'était vraiment ce qui me donnait du désir, ce qui, voilà, créait de l'élan. Et, mais de manière à, enfin, avec une lecture où, ben voilà, il y a des fois je lis des textes, il y a des bouts entiers que je comprends pas, ou alors il y a vraiment juste une phrase qui d'un coup va ouvrir tout un monde. Et donc, en l'occurrence, là, je suis tombée sur ce livre de Geneviève Pruvot qui s'appelle Quotidien politique. Parce que j'étais avec ces questions de, je m'intéressais beaucoup à la question du collectif, de comment on s'organise ensemble, disons plus largement, et du coup aussi avec cette question de où se jouent les enjeux de pouvoir, en fait, et avec la sensation qu'en fait, ils se jouent souvent les enjeux de domination dans des décisions et des organisations très quotidiennes de comment on fait à manger, comment on habite ensemble quelque part. Et donc j'ai rencontré ce livre de Geneviève Pruvot, et du coup, là, l'envie, c'était d'être informé, nourri par cette pensée-là, mais en le confrontant à comment moi j'essaye de mettre en pratique cette question-là, comment j'essaye de déjouer des dominations dans le quotidien en fait.
Sur ce sujet-là, tu as évoqué dans ta réponse là, le mot contamination, et je trouve qu'il est assez beau parce que dans la contamination, les images qui ont fleuri dans mon esprit quand tu évoquais ça, c'est cette idée que cette idée s'immisce et on ne sait plus la distinguer de l'organisme qu'elle contamine. Et je trouve que c'est assez beau, et j'imagine que c'est un peu comme ça que tu envisages donc les relations entre la théorie, ou en tout cas un apport théorique que tu aurais lu, et puis ce que tu en fais. Et je me demande aussi si ce n'est pas une manière d'exprimer cette façon dont tu écris, pour sortir de cette définition d'écriture de soi. C'est-à-dire une écriture contaminée par sa vie, par tout ce qui te traverse.
Ouais, ça résonne en tout cas avec la manière dont j'ai écrit ce texte, qui est une pratique que j'avais déjà avant, mais où en fait j'ai écouté une interview donc, de Geneviève Pruvot dans Lundi Matin. Et donc c'est une vidéo en ligne, et je l'ai écrite en... j'écoutais, je ne regardais pas vraiment en fait, mais j'écoutais cette interview et j'écrivais simultanément. Et du coup, dans cette écriture, je joue à la fois sur le fait qu'elle va trop vite pour moi par rapport au fait d'écrire, mais je joue aussi sur le fait que, en fait, en même temps que j'écris, ça m'évoque des choses. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on reçoit, enfin, je veux dire, même une pensée théorique. Quand on voit quelqu'un, on est contaminé par sa présence, par le grain de sa voix, par quel geste il va faire ou pas. Et que, en fait, il y a plein de choses qui nous habitent simultanément. Enfin, je suis aussi très touchée par le fait que, ben, en fait, là, je vous parle, et puis je vois aussi le lieu où on est, et puis voilà, il y a déjà plein de choses qui me traversent. Et du coup, c'est vrai que quand j'écrivais simultanément, il y a cette chose-là de, oui, qu'est-ce que ça vient aussi générer comme sensation chez moi, comme image, peut-être qu'en même temps, il y a une voiture qui passe, et en fait, je l'entends, cette voiture, elle existe simultanément au fait que je reçoive cette pensée-là, quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette envie, pour moi, de redonner cette expérience-là de, en fait, c'est multiple, il y a beaucoup de choses en même temps, on est traversé, on produit des choses, beaucoup de choses, et en même temps on reçoit beaucoup de choses en même temps, et qu'en fait on ne devient pas qu'un cerveau, d'ailleurs on ne pense même pas que par le cerveau, mais il n'y a pas qu'un endroit de nous qui pense, il n'y a pas qu'un endroit de nous qui reçoit cette pensée en fait.
Et donc, il y a l'envie dans ce texte de retranscrire le fait que, ben, en fait, j'essaye de rentrer dans la pensée de l'autre, mais en fait, je ne fais pas que ça, quoi. Je fais déjà plein de choses en même temps.
C'est un rapport assez poétique à la théorie, si je comprends bien. Ça crée des images. Enfin, t'en parles presque comme si t'en parlais de poésie. Mais d'un autre côté, dans ton texte, il y a vraiment aussi un côté très concret sur comment la théorie peut aider au quotidien. Et je trouve, moi, ce qui me touche beaucoup dans ton texte, c'est cet entremêlement entre ces voix, peut-être à la fois poétiques, théoriques, et elles sont toutes sur le même plan et on sent cette confusion, mais quand même aussi, dans la confusion, on voit des directions. Donc, je ne sais pas si... Est-ce que les textes théoriques t'aident un peu à te guider par rapport aux thématiques de la subsistance, etc. Ou est-ce que...
Je rebondis juste sur le terme poésie. En tout cas, je sens que ce qui me touche dans la question de la poésie, c'est l'oralité, dans ce que tu nommes. Et que là, clairement, il y a une voix. C'est un texte qui parle, qui est écrit à partir aussi donc, de la voix d'une sociologue que j'entends. Donc, il y a cette question de l'oralité, en tout cas pour moi, qui n'est pas que dans la poésie, mais qui me remet... à cet endroit-là. Et après, oui, là, dans ce texte, il y a concrètement sur cette question donc de... elle aborde plein de choses, Geneviève Pruvot, mais entre autres sur cette question de concrètement, donc la production de nos objets est délocalisée. Donc on ne connaît plus les gens qui fabriquent nos objets, mais non seulement on ne les connaît pas, mais on ne connaît pas leurs conditions de vie. Et même pour le retrouver, c'est tout... Et c'est pour ça, là, je cite, après, c'est des citations approximatives, mais quand elle dit ça devient un problème cognitif, c'est-à-dire que moi, je me dis, bah oui, dans mon quotidien, si je me demande concrètement où est-ce que j'achète mon matelas, alors il faut que je retrouve qui l'a fait. Et en fait, c'est des chemins tellement complexes et aussi tellement éloignés que ça en devient... Enfin, je veux dire, pour acheter un matelas, il faut presque un an, quoi. Pour acheter un matelas en essayant justement de défaire la domination, de ne pas aller exploiter quelqu'un. Et après, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est de me dire... En fait, c'est aussi ce qui remet en jeu toute la question des actes quotidiens. C'est-à-dire que moi, je peux voir avec la famille que j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, tout ça, de me dire « Ah, la vaisselle, c'est chiant, le linge, c'est chiant. » Et que je vois que tout, dès que je ne fais plus ces actions, j'ai la sensation qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Quelqu'un qui n'a... Et qui va le faire? Et qui, dans notre société, même si on parle de la France, sans parler de délocalisation, va faire ces tâches-là? Et pourquoi on ne les partage pas? Et est-ce que ce n'est pas plutôt en les partageant qu'on en vient... On pourrait peut-être sortir de ne pas exploiter quelqu'un pour le faire? Et comment je retrouve aussi une valeur à ces choses-là de... faire la vaisselle et pas utiliser le lave-vaisselle. Et en même temps, c'est tout un temps. Enfin, voilà, c'est toute cette complexité, quoi. Comme réchauffer des plats, bah oui, faire à manger, c'est un temps. Ça peut être un vrai partage avec les gens avec qui tu habites, de discussion, etc. Et en même temps, bah, d'un coup, avoir un plat préparé, bah, ça va vite, t'as pas le temps. Et voilà, c'est toutes ces complexités-là, quoi.
Et donc, c'est ces thématiques-là que tu choisis d'aborder dans ce texte. Et donc, je me demandais, en fait, c'est une question évidemment un peu large, mais qu'est-ce que la littérature, au sens, encore une fois, très large, peut faire, à ton sens, pour mettre en lumière ces questions-là, potentiellement les déjouer? Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, en tout cas, dans ce texte, je pense qu'il y a un peu deux choses. Il y a d'abord faire l'expérience à l'auditeur, auditrice ou lecteur, lectrice de qu'est-ce que c'est qu'être pris dans cette complexité, en fait, et partager le fait, enfin, lui permettre, je ne sais pas si c'est le mot, mais partager avec lui ou elle cette expérience-là de « ah oui, en fait, on est pris dans cette complexité, cette multitude et ces contradictions ». Donc déjà, mettre en lumière ou faire apparaître le fait qu'elles existent, ces contradictions et cette complexité. Et l'autre chose pour moi, c'est aussi désacraliser un rapport à la pensée ou au savoir aussi, je pense peut-être parce que je viens de la danse et que... il y a toute une culture de la dévalorisation de la pensée. Enfin, le danseur ne penserait pas à plein de choses comme ça. qui pour moi est un lieu qui produit de la pensée, donc que la pensée elle est produite à plein d'endroits, et que ne pas comprendre, c'est pas être bête en fait, c'est la complexité de, et qu'on comprend tous à cet endroit-là en fait. Et pour moi c'est aussi une manière de se réapproprier, mais comme la politique quoi, c'est-à-dire c'est pas l'expert qui sait mieux, l'expert il a un savoir qui peut m'être utile, donc moi là ça m'est utile de lire Geneviève Pruvot, mais ça veut pas dire que je peux pas moi-même construire ma propre expérience et ma propre pensée de la chose quoi. Et du coup, pour moi, c'est aussi une manière de, voilà, de partager cette expérience-là de, ben oui, ok, t'écoutes quelqu'un, peu importe, Geneviève Pruvot, tu comprends pas tout, mais tu en saisis des choses, et en fait, ces choses-là, c'est déjà important. Et parfois, ce que tu comprends pas, c'est aussi parce que c'est pas le moment pour toi de le comprendre. C'est pas qu'une question d'intelligence, enfin, l'apprentissage, c'est plein de choses. Donc, c'est aussi, pour moi, une manière de se dire, ben, ressaisissons-nous de tout ça, en fait, et on a tous un savoir, en fait. Ils sont pas au même endroit, ils n'ont pas les mêmes fonctionnements, mais comment, qu'est-ce qu'on en fait, quoi ?
Alors, au-delà des, pour rebondir sur ce que tu dis, au-delà des références théoriques, c'est aussi le choix de l'objet, en fait, que je trouve intéressant. C'est-à-dire que tu fais du quotidien le terrain d'étude ou le terrain de création, dans ce cas-là. Donc ça, ça rejoint une tendance des artistes féministes qui s'est déployée sur le XXe siècle. Mais je voulais savoir avec quels artistes ou quels auteuristes tu pensais cette question de la subsistance.
Alors là, je ne sais pas du tout répondre à cette question, qui ne serait pas du coup pour... La question que tu poses, c'est plutôt des écrits qui ne seraient pas théoriques, justement.
Alors, ça peut être des écrits théoriques, mais ça peut être aussi... Donc ça peut être des écrits théoriques, mais ça peut être aussi des pratiques artistiques, notamment en danse peut-être, d'artistes qui ont choisi le terrain de la quotidienneté, de ben, par exemple la maternité ou le fait d'élever des enfants, comme un terrain, ça a été un choix politique à un moment donné de le mettre au centre de la pratique. Tu vois, et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu fais aussi. C'est-à-dire, au-delà, tout ce que tu dis sur le savoir, sur la position de savoir, c'est aussi, je pense, ça participe d'un mouvement, la manière dont toi, tu envisages le savoir, mais il y a aussi le fait de mettre en avant certains territoires, certains objets qui le sont moins, on va dire.
Oui, c'est, en fait, il me vient plein de choses, mais je ne suis pas sûre que je réponde vraiment à ta question. Il me vient la question de la pratique en danse, c'est-à-dire cette chose de faire et refaire et faire quotidiennement. Après, moi, je pense que c'est plutôt... Je suis sûrement nourrie de plein d'écrits, mais comme ça, je les retrouve pas. Mais je pense que je suis aussi nourrie d'une pratique du collectif, en fait. Bah déjà, je viens donc du spectacle vivant où souvent on crée à plusieurs. Collectivement, ça veut pas dire horizontal, mais en tout cas, on se retrouve dans un groupe et il faut bien prendre des décisions. Après, moi, c'est une chose dont je m'intéresse depuis longtemps. Par exemple, on parlait d'Anna Alprin. C'est quelqu'un qui a créé des outils de partition pour écrire à plusieurs et pour rendre visible ce qu'on est en train de décider. Et donc, parce qu'en danse, il y a un des enjeux, c'est l'écriture. Comment tu le rends visible ? Parce qu'il y a plein d'écritures différentes pour écrire la danse, pour le noter. Et rendre visible ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de décider, c'est une manière de pouvoir le mettre au milieu d'un groupe et du coup de prendre des décisions ensemble. Donc en tout cas, peut-être plus que le quotidien, il y a eu cette question de prendre des décisions ensemble. Et le quotidien, j'ai l'impression que c'est plus des questions de... Enfin si, là je pense aussi à une chorégraphe, Déborah Hay, mais c'est pareil, c'est pas tant sur le quotidien que sur questionner comment une œuvre, toutes les étapes sont importantes, depuis la production, depuis trouver l'argent, depuis le lieu où tu répètes, depuis le lieu où tu le fais, en fait que toutes les étapes ont leur constituent l'œuvre en fait, et que l'œuvre c'est pas juste qu'elle est donnée à voir à la fin, ou en tout cas il est constitué de tout ce qui a eu lieu avant aussi quoi. Mais comme ça, j'ai pas de... J'en ai sûrement quelque part, mais là, je les vois pas.
Oui, mais tu viens de nous en donner quand même quelques-unes. Et juste sur ça, pour rebondir, ça me fait penser à une façon d'envisager, que ce soit une pratique artistique, une manière de penser, avec une attention particulière aux conséquences, en fait, de ce qu'on fait. Je sais pas si tu l'évoquerais de cette manière-là. C'est-à-dire être attentif... C'est-à-dire être attentif à vraiment aux effets que va avoir une action ou un choix ou une manière de pratiquer sur l'ensemble de la chaîne, comme tu dis, de production.
Alors ça, moi, j'ai l'impression que c'est plus lié à un engagement politique au sens de... À un moment donné, moi, j'ai pu tenter de m'inscrire dans des groupes politiques, on va dire ça comme ça, et j'ai eu la sensation d'une impuissance. Et j'ai eu la sensation que l'impuissance, c'était une impasse. Ça me mettait plus dans un renoncement et que l'agir au quotidien, j'ai l'impression que c'est l'endroit qui est à mon niveau, en fait. Et du coup, artistiquement, c'est pareil. J'ai l'impression de me dire, ben, en fait, si je vois trop gros, trop macro, j'ai une sensation d'impuissance ou de me perdre. Alors que si je reviens à mon endroit, à moi, là où je suis, là, j'ai l'impression de pouvoir agir, d'être en complexité, en contradiction, tout ça. Mais j'ai l'impression d'une puissance d'agir, en fait, tout simplement. En fait, c'est l'endroit où j'ai cette sensation-là, ouais.
Justement, dans ton texte, donc, dans ce moment un peu où tout se mélange, moi j'avais l'impression qu'il y a cette impossibilité à agir dans ton quotidien suivant tes idéaux. Et je ne sais pas si... Parce que là, tu viens de dire un petit peu le contraire. Enfin, que tu as une puissance, même si tu peux peut-être pas aller jusqu'au bout, parce que ce n'est pas possible.
Alors moi, je n'ai pas une sensation d'impuissance, mais j'ai une sensation de contradiction, de paradoxe, de limite, de... que je tente, je tente de me dire, bon, bah, j'utilise plus de la vaisselle sur des choses hyper concrètes, mais en même temps, je trouve ça drôle et ça me fait rire aussi. Et je trouve ça, l'humour aussi me permet d'avoir la sensation de reprendre de la puissance et aussi d'avoir un peu de, ok, en fait, je tente, en fait, d'accepter que je tente et peut-être ça rate, en fait, et que tout le monde va pas mourir et que mes enfants vont pas avoir une vie de merde parce que réchauffement climatique, même si je le pense aussi, mais en même temps, d'avoir un peu d'humour là-dessus et de me dire, ok, bon, bah, c'est drôle, juste, je crois que je vais révolutionner le monde en n'utilisant pas la vaisselle. Et en même temps, j'ai l'impression que, bah oui, c'est l'endroit où je peux agir, me demander ce que je mange, où je l'achète, qui le produit, comment il le fait, quelles sont ses conditions de vie. J'ai quand même l'impression que je peux faire quelque chose à cet endroit-là, mais en étant toujours confrontée à je me suis complètement plantée. Je pensais que Bidule, il faisait ces trucs comme ça. En fait, pas du tout. Enfin, j'ai caricaturé, c'est pas ça, mais c'était bio, mais en fait, ça l'est pas. Enfin, je vais dire n'importe quoi. Mais ça me fait pas renoncer. J'ai pas l'impression que ça sert à rien. J'ai l'impression que c'est en cours et que ça continue, quoi.
Et tu peux nous donner quelques exemples, du coup, de... Comment t'ancres cette lutte-là dans ton quotidien
Alors, pour moi, c'est vraiment... pour moi, il y a une chose aussi très personnelle d'être à l'écoute de là où je suis, de ne pas trop projeter, et donc de regarder ce que je fais, de laisser de l'espace et du temps. Et après, par exemple, c'est accepter que je vais consacrer beaucoup mon argent à... je sais pas, à des choses de la nourriture, par exemple, et pas forcément à partir en voyage très loin. C'est plein de choix. C'est partir loin en train. Mais en fait, pour moi, c'est aussi... C'est un peu ce terme de sobriété heureuse. Moi, en fait, il y a plein de choses. Ça me rend heureuse, par exemple, de ne pas mettre de chauffage et de voir qu'en fait, je peux porter des pulls et des couvertures. Et je ne sais pas comment dire, mais il y a quelque chose là-dedans qui me rend heureuse de... En fait, c'est super, il y a plein d'autres moyens et en fait, je ne sais pas, ça me donne une puissance quand même de quelque chose d'autonomie aussi en fait. Parce que quand je ne mets pas de chauffage, je ne dépends de personne, personne ne produit de l'énergie pour moi, je ne dépense pas de l'argent pour ça. Et donc, c'est cette question-là, je pense, de l'autonomie. Même si pour l'instant, sur la question de la subsistance, très clairement, c'est une impasse totale dans ma vie, mais ça c'est autre chose, si on veut dire produire vraiment sa nourriture, quoi.
Ça me parle vraiment beaucoup ce que tu dis aussi parce que je trouve que c'est une façon vraiment à la fois intelligente et légère de déjouer la culpabilité. Parce que je pense que toutes les personnes qui sont politisées, qui sont concernées, qui se sentent concernées par ces questions d'écologie au sens large, peuvent vite se retrouver rattrapées par un sentiment de culpabilité, ah oui, mais j'ai pas fait ça, j'aurais pu mieux m'arranger pour ne pas consommer ça à tel moment, etc. Et du coup, se retrouver, je vois ça beaucoup autour de moi, se retrouver dans des espèces de schémas mentaux de culpabilité qui, en fait... Ne n'arrange rien, c'est-à-dire ne crée rien, c'est-à-dire cet espace mental-là, ces pensées-là, en fait, elles sont inutiles, elles ont aucune, elles ont aucun impact dans le quotidien, dans l'environnement. Et donc, je trouve que c'est vraiment intéressant que tu puisses poser les choses de cette manière-là, que ce soit là dans la discussion, mais aussi à travers ton texte. Et pour revenir du coup sur ton texte, tout à l'heure, tu as parlé à quelques reprises de la notion d'oralité et que tu distinguais plus ou moins de la poésie, en tout cas en disant que ce qui t'intéressait dans la poésie, c'est la question de l'oralité. Et c'est vrai que tu sembles aussi avoir pris du plaisir là pour ce texte-là, de le mettre en son. Et voilà, ça m'interroge sur... qu'est-ce que ça change pour toi dans un texte que tu as écrit de le mettre en voix, de le mettre en son, même peut-être presque en performance
En fait, je ne l'éprouve pas de la même manière. C'est-à-dire quand je sais qu'il va être performé ou mis en son... Enfin, il y a deux choses. Il y a la question de l'oralité. Du coup, moi, je l'éprouve très concrètement à l'oral pour voir ce qui résiste ou pas. Je le pense aussi plus au moment où je l'écris à l'oral. Après, là, il y avait aussi la question de la mise en son. Ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce qui va venir soutenir, qu'est-ce qui va... En fait, de pas... Ce que j'ai cherché, en tout cas, c'était à pas être dans l'illustration... À ce que le son vienne apporter une autre dimension qui peut être présente dans le texte mais qui n'est pas complètement là et en même temps presque qui a aussi son indépendance, enfin c'est pas le mot exact mais en tout cas qui vient soutenir quelque chose du texte, qui vient cohabiter et qui vient pas juste illustrer, c'est-à-dire je parlerais d'une chose et il y aurait son par exemple et je me demandais comment ça fonctionne réellement, comment tu construis quelque chose de cet ordre-là, mais qui est aussi du rythme, la question du rythme, la question du temps, la question de déjà ça.
En termes de forme littéraire, justement, parce que tu as évoqué donc, le fait de retrouver de la puissance au quotidien, les sujets de collectif, de faire expérience, de nous faire expérimenter quelque chose, en quoi cette façon d'aborder la vie quotidienne influe ta manière d'écrire ou le type d'écriture que tu peux développer ?
Je ne suis pas sûre de comprendre, tu veux dire, le lien entre l'attention à la vie quotidienne et le fait d'écrire.
Oui, par exemple, le collectif, la manière dont ça te touche, en fait, ça te questionne sur comment prendre des décisions, etc. Et ensuite, la forme littéraire que tu vas développer, les réflexions que tu peux avoir là-dessus. Que ce soit sur ce texte ou d'autres que tu crées, il y a une linéarité qui n'est pas suivie, on va dire, qui est morcelée. Il y a parfois de la fragmentation. Tu expérimentes aussi une autre manière d'aborder le jeu ou de le démultiplier. Donc voilà, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus.
Ça, c'est plus en lien, pour moi, avec le fait du rapport aux autres. C'est-à-dire, ça va aussi avec des questions d'identification et de désidentification, c'est-à-dire que dans le rapport aux autres, pour moi, il y a aussi à la fois savoir où on est, mais aussi savoir qu'on bouge, qu'on est multiple. Et que je peux dire une chose et qu'en fait, toi, tu vas me répondre quelque chose. Au départ, je vais m'opposer à toi. Et en fait, le lendemain, ce que tu as dit aura cheminé, j'aurais cheminé avec ça et je vais penser autrement. Et du coup, j'ai l'impression que il y a cette question de la multiplicité en fait par laquelle on est habité quoi. Mais ça répond pas tout à fait. Toi, tu parlais plutôt du lien avec la vie quotidienne. J'ai l'impression, mais
non, ce que tu nous disais sur le collectif et la vie quotidienne. Oublie-moi.
Si ça répond en partie, parce que c'est comment finalement ces pensées-là sur le collectif ou ce que tu as expérimenté dans ta vie quotidienne, comment ça vient questionner aussi la forme littéraire que tu vas utiliser. Donc tu as répondu en partie, dans le sens où sur d'autres textes que tu peux écrire, effectivement la question de la multiplicité elle est, mais là aussi dans la forme que tu nous as présentée, il y a une forme de multiplicité, on ne sait même plus qui parle ou Et donc, on ressent cette forme de multiplicité et ces multiples voix, finalement, que tu fais sourdre. Mais il y a aussi dans la forme littéraire, je voulais savoir si ça avait un impact. Enfin, j'imagine que ça a forcément un impact. Je ne sais pas si tu peux nous en dire plus. Tu as déjà pas mal répondu, là.
Ouais, là, je ne sais pas.
Ok, bon, effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont pu être dites et je te remercie beaucoup d'avoir pu nous apporter cet éclairage sur ton texte. Merci donc à Céline d'avoir pu présenter son texte. Merci Manu et Louis pour les questions et on se retrouve dans le prochain épisode.